En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Voilà quelqu'un qui a l'œil de celui qui a vu, vécu et perdu une terre, de celui qui a peut-être aussi entendu siffler des roquettes et qui est devenu un genre de sniper, un peintre, artiste plasticien très contemporain, très palestinien en même temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire être artiste palestinien ? En sol majeur, en tout cas, est heureux de recevoir dans sa chambre noire Taïsir Batnidji, 52 ans, né à Gaza, qui expose dans le monde entier, de Paris à Jérusalem, et qui est de toutes les biennales, de la Havane à Venise en passant par Alexandrie. Et ce monsieur, discrètement amoureux de l'art, revient d'une résidence aux États-Unis où il honorait une commande photographique franco-américaine à la rencontre de ses cousins d'Amérique. Malhaba et bonjour, Taïsir Batnidji.
Ahlan wa sahlan, bonjour Yasmine.
Quel beau prénom Taïsir.
Merci.
Ça veut dire quoi ?
Je dirais en français, ça pourrait dire faciliter quelque chose, rendre facile quelque chose.
Alors nous, on va poser le pied dans votre chambre noire avec d'abord une musique qui appartient à une grande musicienne palestinienne, Camilla Joubran, qui a été une de nos premières invitées en sol majeur. Mais bon, c'est pas parce qu'elle est palestinienne que vous l'aimez, on est d'accord ?
Oui, tout à fait, bien sûr.
Pourquoi en particulier vous vouliez écouter l'album, je vais pas arriver à le dire en arabe, Wamed ?
Wamed, d'abord j'aime beaucoup la voix de Camilla, parce qu'elle a une variété de sons et de tonalités assez impressionnante. J'adore les mots, souvent elle utilise des textes de poètes, palestinien ou arabe.
Elle est elle-même une grande oudiste, elle joue
oui,
du oud.
Oui, tout à fait.
Ouais. Ouais. Et là, l'album, il a une sonorité particulière.
Oui.
Jay. J-COM. Je me souviens.
On est en Palestine, à Gaza, où vous êtes né en 1966, c'est-à-dire 2 ans après la création de l'OLP et juste 1 an avant la guerre des 6 jours. Est-ce qu'il y a, Taïssir Batnidji, un événement politique ou un moment de vie qui vous aurait marqué, petit ?
Deux images. Une où on était derrière la porte, un portail qui donne sur la rue. Donc on était derrière cette porte, il y avait mon père, mon oncle, il y avait des adultes et il y avait moi, peut-être d'autres enfants. Et on ne pouvait pas sortir. Dehors, il y avait des jeeps militaires israéliens qui sillonnaient la rue en toute vitesse. On voyait le drapeau israélien sur les jeeps qui flottaient par-dessus le portail. On voyait le drapeau, des tirs de balles, ou parleurs qui annonçaient un couvre-feu. Je voyais l'inquiétude sur les visages des adultes. Ça, c'est la première image. La deuxième, je me souviens de ma maison, chez moi, remplie de soldats israéliens. Je regardais autour de moi les toits des voisins. Il y avait des soldats postés sur les toits. Et il y avait un soldat, un officier, qui avait pris une table que mes frères utilisaient pour étudier. Et il y avait un cahier, un grand cahier devant lui, ou des papiers, et il faisait le recensement de la population. Et je me rappelle aussi des images liées à cette période. On fixait des numéros sur les maisons, sur des plaques peintes en blanc, et les chiffres étaient écrits avec des pochoirs rouges.
Donc c'est les soldats israéliens, c'est l'armée israélienne qui mettait ces numéros pour le recensement.
Oui.
Alors votre quartier qui se situe à l'est de Gaza s'appelle Al-Shajaya.
Al-Shajaya.
Quelle mémoire sonore vous en gardez ?
Beaucoup. Je me rappelle surtout le matin quand je me réveillais, parce que les maisons chez nous ne sont pas très fermées en fait. Il y a toujours des ouvertures, des balcons, enfin, des grandes fenêtres. Donc j'entendais la voix de mon oncle qui récitait le Coran le matin. Et il avait une voix vraiment magnifique. Puis je voyais le ciel depuis mon lit, enfin depuis le matelas. On était tous alignés dans le véranda avec mes frères et mes sœurs. Je me rappelle, par exemple, à l'est du quartier où on avait mot de ferme d'oranger, il y avait la pompe à eau. Le matin, ma mère qui utilisait quelque chose pour chauffer l'eau, comme on appelle ça.
Un réchaud à pétrole.
Voilà, un réchaud à pétrole. Il avait vraiment un bruit très fort, mais pour nous, c'était très familier parce que ça annonçait le petit déjeuner, le réveil, le petit déjeuner.
Voilà, on a gardé de façon très en sol majeur cette mémoire sonore, merci Laura Pinto, de votre quartier d'enfance, Al-Shajaya, à l'est de Gaza, Taïssir Batnidji. À Gaza, où on peut entendre encore cette phrase, enfin c'est-à-dire que si vous l'entendez cette phrase, à savoir « est-ce que tu as entendu sonner le canon ?» C'est pour parler de la rupture du jeûne.
Tout à fait, tout à fait.
Ça existe encore, parce que ça date de la période ottomane.
Non, oui, oui, exactement. Il y avait associé à ça aussi, le minaret s'allumait en même temps.
Vous êtes né dans quelle famille ? Dans quel genre de famille ?
Je suis né dans une famille nombreuse. Mon père, il a fait beaucoup de métiers. Il y avait beaucoup de pauvreté à l'époque. Enfin, on n'est pas une famille aisée.
Commerçant, donc, paysan ?
Paysan à la base. Mais qui, après la création d'Israël, ils ont perdu leurs terres, donc ils sont devenus pauvres, alors qu'ils avaient beaucoup de terrains, qui sont maintenant à l'intérieur de ce qu'on appelle Israël. Et donc mon père, il était obligé de voyager en Égypte, surtout dans le pays du Golfe, où il a pratiqué beaucoup de métiers.
Mmh. Vous évoquez la confiscation des terres de vos grands-parents, Taïssir Batnidji. Quel récit on vous a fait autour de 1948 et de la création de l'État d'Israël ? Et autre question, est-ce que vous diriez que vous avez été élevé finalement dans la haine d'Israël ou dans la haine des Juifs ?
Pas du tout, pas du tout. Je dirais que même, on n'en parlait pas beaucoup. Il n'y a pas de haine pour les Juifs parce qu'ils sont Juifs. Notre problème n'est pas avec les Juifs parce qu'ils sont Juifs. C'est un problème politique à la base, c'est un problème d'existence. Mais dans ma famille, de 48, on n'en parlait pas beaucoup.
Vous saviez quand même que la famille avait eu des terres,
oui,
et qu'elle les avait perdues.
Oui, on garde même les papiers, les documents de propriété de ces terres que sont gardées. Dans toutes les familles, vous trouvez ce genre de documents. Surtout, les familles qui habitaient à l'est de Gaza, à la ville de mon quartier et beaucoup d'endroits, c'était des grandes familles qui avaient beaucoup de terrains et qui sont perdues. Et du jour au lendemain, ils se sont trouvés démunis.
Alors, à côté de cette rapide peinture politique que vous faites, qui est à hauteur d'enfance, Taïsir, il y a le dessin qui va entrer très très vite, très tôt dans votre vie.
Oui. En fait, jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans, je ne savais pas ce que c'est le dessin en fait. Pour moi, ça n'existait pas. La première fois que j'ai découvert le dessin, c'était avec la première fois où on a eu un prof de dessin. Elle a commencé à dessiner sur la planche.
Sur le tableau ?
Sur le tableau, pardon. Des formes, des avions, des bateaux, des personnes. Et puis je commençais à imiter. J'étais fasciné par ces dessins. Et j'ai fait mes premiers dessins. Et là, je me suis rendu compte, j'ai découvert à ce moment-là, que j'avais un don.
Comme l'origine du monde.
Et oui, parce que la première fois que vous avez vu un tableau, en vrai, c'était un Courbet. Alors, ce n'était pas l'origine du monde, mais c'était l'atelier du peintre qui a été réalisé par Courbet en 1854. C'est un très, très grand tableau, une mise en abîme, parce que c'est en fait la représentation d'un tableau dans le tableau, représentant
Tout à fait.
Courbet lui-même, en train de peindre un paysage. Il a une femme nue juste à côté, mais en fait, ce n'est pas du tout elle qu'il va peindre, c'est un paysage. Et, et le tableau est une sorte de triptyque. Enfin, en tout cas, à sa droite, une petite foule de gens qui sont peut-être négatifs pour lui. Ce sont des huissiers, des croque-morts. Et puis à sa gauche, ce sont des amis, notamment le fameux Proudhon, l'anarchiste.
Ouais.
Et ce tableau est présenté comme une sorte d'allégorie réelle. C'est deux mots étranges d'ailleurs. Qu'est-ce que ça a déclenché chez vous, ce tableau-là ?
De voir une œuvre d'art en réel, c'est jamais égal à une reproduction. C'est complètement autre chose. Et de me trouver face à ce tableau, j'avais le corps qui battait comme ça. Puis il y avait d'autres tableaux, je ne me souviens pas, je ne peux pas les nommer un par un. Il y avait un autre tableau qui s'appelait Le Rêve, de quelqu'un qui s'appelle De Taille, une peinture militaire. Et là, j'avais le cœur qui battait très fort. Et à ce moment-là, j'ai décidé de sortir du musée, de prendre une pause.
Donc, vous allez faire des allers-retours. Hein, parce que, donc, au départ, vous avez fait les beaux-arts à l'université Al-Najat de Naplouse, donc en Palestine. Et puis, finalement, grâce à cette bourse, vous vous retrouvez en France. On est dans les années 94-95. Mais une fois que vous avez fini votre stage ici en France. La décision, c'est quoi ? De rester, de repartir en Palestine avec un nouveau savoir-faire ?
En fait, après mon diplôme de Beaux-Arts, c'était clair pour moi que je rentrais chez moi en espérant de trouver un travail, parce qu'en tant qu'artiste, c'est difficile de vivre de l'art, surtout dans le contexte gazaoui. Au bout de 2-3 mois, j'étais presque désespéré parce que je ne trouvais pas de travail, et le seul moyen de trouver un travail, c'était trouver un intermédiaire. Institution qui était valable, en tout cas proche de mon domaine, c'était les institutions de l'autorité palestinienne. Le ministère de la Culture, la télé palestinienne, tout ça. Donc j'ai obtenu un poste à la télé palestinienne, mais malheureusement pendant 2-3 mois, j'étais affecté souvent à des tâches qui relèvent de la manutention. Enfin, je portais des décors, déplaçais des choses.
La culture n'intéressait pas vraiment la télévision palestinienne.
Je ne sais pas, mais c'est un système hiérarchique assez bizarre.
Ouais.
Vous devez attendre longtemps pour remonter dans votre poste. Ça dépend des relations. Et puis, vous pouvez travailler pendant 6 mois, un an, à temps, avant de recevoir un salaire.
Donc Taïsir Batnidji, vous revenez à Paris.
Je suis retourné à Bourges à l'époque.
Vous êtes retourné à Bourges, mais beaucoup à Paris. Et ce qui m'intéresse, c'est le fait que vous vous soyez jeté un peu sur les musées, sur les expositions, notamment au Centre Georges Pompidou. Est-ce que vous vous souvenez, à l'époque, de ce qui pouvait vous choquer artistiquement ?
Une fois, j'étais dans une exposition collective au Centre Georges Pompidou. Et donc, je vois des œuvres. Certains m'ont choqué. Certains, voilà. C'est...
Quoi, par exemple ?
Par exemple, il y avait un tas de poubelles, un tas de d'os, je ne me souviens plus exactement, et sur lequel il y avait une télé, un moniteur, et sur lequel on voyait une femme se masser les seins. Après, au fil de temps, je commence à appréhender ces nouvelles formes et comprendre le pourquoi et le comment. Mais je suis resté toujours sélectif jusqu'à aujourd'hui. Même si je comprends les raisons, les concepts, tout ça, il y a des choses auxquelles j'adhère, d'autres pas.
Alors votre lien à l'image, Taïsir Batnidji, a évolué évidemment. Vous avez donc d'abord été peintre et puis vous avez glissé vers les nouveaux médias, vidéo, photographie. Vous avez signé un grand nombre d'installations et de performances que j'ai regardées, qui sont presque choquantes, je dirais. Il y a un langage tout à fait particulier. Question cliché comme ça, qu'est-ce que c'est qu'une bonne image pour vous ?
Mais qu'est-ce qui vous choque d'abord ? Qu'est-ce qui vous a choqué ?
On pourra en parler ensuite, mais une bonne image, c'est quoi pour vous ?
C'est difficile.
Oui.
Qu'est-ce que c'est une bonne image ? Une bonne image qui soit sincère, qui ait un sens. Pour moi, il est important qu'il y ait de la poésie.
Vous fonctionnez apparemment par thématique, et notamment celle de la disparition est assez évidente chez vous, et vous ne signez pas en tant qu'artiste plasticien palestinien, mais évidemment la Palestine traverse, on le sent bien, votre inspiration. J'aimerais bien que vous nous racontiez par exemple cette série que vous avez signée en 2000, que vous avez intitulée « Sans titre », où là il s'agit de 180 portraits photographiques sur les martyrs de l'Intifada.
Oui. En fait, 2000, c'était, je dirais, mon deuxième retour que j'appelle définitif à Gaza. Deuxième fois, j'ai tenté de rentrer de manière définitive. J'apprends le déclenchement de la deuxième intifada. Il y avait beaucoup de morts, en fait, surtout des jeunes. À savoir que l'armée israélienne s'est retirée de Gaza, de centre urbain, enfin la ville même, mais elle est restée postée sur les frontières. Et donc les jeunes allaient à ces points d'affrontement avec les soldats et jetaient des pierres, et les soldats repostaient avec des balles réelles. Cette idée de la disparition, c'est quelque chose qui a commencé dans mon travail beaucoup plus longtemps avant. Mais là, il fallait trouver un moyen de représenter cette perte, en fait. Je commençais par collecter les portraits des disparus. Portraits que je trouvais dans les journaux, dans les affiches, parce qu'il y avait des affiches qu'on placardait sur les murs, un grand nombre de portraits. J'ai trouvé dans des organismes des droits de l'homme, des organisations humanitaires, qui faisaient un travail d'archivage, en fait, sur ces disparitions. Mm-hmm. Donc, je peux obtenir la permission pour emprunter ces portraits. Après avoir scanné les portraits, je les ai transformés en noir et blanc, de forme graphique. Donc les traits de visage étaient découpés dans des stickers brillants noirs et transférés ensuite sur un carton noir mat. Ce qui faisait, c'est que quand on regardait l'image, il y avait deux sortes de noirs, un très profond et les parties brillantes de visage qui étaient en sticker noir avec le contact de la lumière devenaient blancs quasiment. Donc quand on efface, ça donne comme une image négative, mais quand on se déplace, l'image apparaît.
Donc vous travaillez sur l'idée de la perception.
C'est un travail sur la perception. C'est quelque chose qu'on voit après coup. Et ça demande aussi un positionnement des spectateurs, un effort pour découvrir l'image.
Alors, un autre exemple de votre travail, Taïsir Batnidji. En 2001, vous tenez un journal intime, Gazaoui, sous forme de vidéo. Donc, on a le son de cette vidéo. On va l'écouter, on va se la mettre en oreille de façon en sol majeur, puis je vais vous laisser nous donner les images ensuite.
Voilà.
Gaza Diary, donc pour en sol majeur, avec à la fois cette bande-son et puis une alternance d'images, c'est-à-dire deux plans fixes, par exemple on voit des mannequins aux cheveux jaunes qu'on retrouve dans les magasins, on voit des marchés avec des choux-fleurs et des courgettes sur un étal, on voit cette photo incroyable d'un gamin vendeur d'oranges qui se met à l'abri dans une carcasse de frigidaire parce qu'il pleut. On voit des scènes de joueurs de cartes ou des scènes de buveurs de thé. Et c'est alterné avec un plan où on voit le couteau à trancher du boucher qui coupe la viande, une viande rouge, une viande saignante. Pourquoi vous avez choisi de faire cette alternance, ce type de montage ?
Avant de quitter Paris, j'avais acheté une petite caméra vidéo PC que je pouvais vraiment mettre dans ma poche. Et pendant une année où je suis resté à Gaza, je me baladais tous les jours avec cette caméra dans ma poche. On allait au travail, si j'allais me promener ou faire des courses ou aller voir un ami.
Reporter du quotidien.
Reporter du quotidien. C'est vraiment comme un carnet. C'est pour ça que je l'ai appelé Gaza Journal Intime. Sauf que c'est fait avec de la vidéo, avec des images. Il y avait cette option qui me permettait d'enregistrer une scène 6 minutes. L'image est fixe, mais pendant 6 minutes, on entend le bruit environnant.
Mais pourquoi
là,
cette construction
décidé, voilà, j'ai Alors... décidé à la fin d'insérer cette scène que j'ai filmée dans un abattoir où on voit un hachoir qui tombe comme un clin d'œil comme ça, comme s'il coupait des images en fait entre elles. Parce que ça représentait pour moi la vie à Gaza à l'époque. Une vie hachée, fragmentée, paralysée. Mais cette paralysie, voilà, elle est ponctuée par des regains de violence, des explosions, des morts.
Vous avez réalisé un bon nombre d'installations. Il y en a une autre qui a retenu mon regard. C'est celle intitulée « Ceinture à munitions ». C'est quoi l'image ?
L'image, c'est une ceinture de munitions. Et à la place des balles, il y a des crayons, des petits crayons. Et que de loin, on peut penser que c'est des balles, mais quand on se rapproche, on voit que ce sont des crayons. Et ce qui est vraiment étrange avec cette œuvre, c'est qu'elle a été saignée juste 5 ou 6 jours avant les attentats de Charlie Hebdo. Et donc après, je voyais sur les réseaux sociaux...
Quel symbole quand même.
Incroyable, oui. J'étais frappé vraiment par cette coïncidence. Et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive.
Est-ce qu'on peut échapper à cette question finalement qui revient toujours, celle de l'engagement à la chose politique, à la chose militante, quand on est un artiste plasticien palestinien?
Moi, je ne vois pas mon travail vraiment comme un travail militant. Certains le voient parce que quand vous dites que vous êtes palestinien ou vous êtes présenté comme artiste palestinien, les avis divergent entre pro et anti. Et heureusement, il y en a qui ne sont ni pro ni anti et qui arrivent ou réussissent à regarder mon travail indépendamment de leur position politique.
Et
pour moi,
c'est
très important.
C'est ça qui peut choquer, justement. Choquer au bon sens du terme.
Oui, oui.
C'est-à-dire que vous nous emmenez alors que vous décrivez... Il y a en toile de fond cette question politique de la Palestine.
Oui,
vous nous emmenez
que...
sur un territoire qui est celui de l'art et de la poésie.
Je ne me vois pas comme un porte-parole de la Palestine. Je suis palestinien, je suis profondément palestinien. Mais les signes, comment dire, et les clichés qui sont liés à la Palestine ou à la représentation de la Palestine, je dirais qu'ils sont absents de mon travail. Et c'est là où ça peut parfois choquer les gens. Enfin, comme vous dites agréablement, je suis content quand même de l'apprendre. parce que voilà, c'est pas ce que je recherche en fait. C'est une représentation qui va à l'encontre de la représentation médiatique, en tout cas de l'image qu'on donne de la Palestine et de ce conflit, et qui évite tout discours, tout cliché, tout pathos. Le pathos surtout et la victimisation.
Un petit peu de soufisme et de lyrisme arabe aussi. C'est beau parfois quand ça va ensemble comme ça. Et ça va souffler sur RFI avec le soupir éternel de Jafar Youssef. C'est un musicien tunisien qui est installé à Paris depuis longtemps. Pourquoi lui ?
J'aime bien la voix, qui à la fois, c'est une voix humaine, mais on a l'impression que ça se transforme parfois en instrument. Moi, je ne suis pas très, comment dire, expert en musique, mais c'est quelque chose qui me touche, qui me parle beaucoup et qui me fait rêver. Depuis 20 ans, il pose des questions. Depuis 20 ans, il voyage. Pendant 20 ans, sa mère l'a mis au monde. En quelques secondes, sur le bananier, avant de se retirer, il réclame une identité. Il est frappé par un volcan. Les nuages ont voyagé et m'ont égaré. Les montagnes ont étendu leurs bras et m'ont caché. Je suis Ahmad l'Arabe, a-t-elle dit. Je suis là-bas, l'orange, la mémoire. J'ai trouvé mon âme près de mon âme. Je me suis éloigné de la rosée et de la vue sur la mer, et moi, le pays réincarné. Je suis le départ continu vers le pays. J'ai trouvé mon âme remplie de mon âme.
لغتي ولدت على طريق الهند بين قبيلتين صغيرتين عليهما قمر الديانات القديمة والسلام المستحيل.
M comme mot de la tribu.
Je ne sais pas s'il existe sur la Terre un Palestinien qui ne soit pas connecté à la poésie de Mahmoud Darwish, mais après ce poème Ahmad al-Arabi que vous avez lu, Taïsir Batnidji, il faut nous expliquer, dans la langue qui n'est pas la vôtre, en quoi Darwish peut-être vous aide à dire votre Palestine.
En fait, j'ai toujours perçu la poésie de Mahmoud Darwish comme quelque chose qui exprime vraiment, c'est moi, j'avais le pouvoir de la maîtrise de la parole, comme lui, je l'aurais dit. C'est une parole juste, profonde et humaine. Même, c'est vrai qu'elle évoque la Palestine, enfin, c'est le poète palestinien, mais souvent on oublie quand même que Mahmoud Darwish est avant tout un poète de l'humanité. D'ailleurs, j'étais triste quand, à sa disparition en 2008, la une de Libération, il y avait le grand titre, c'était « Un proche d'Arafat est mort ».
Ah, oui.
Je trouvais ça très réducteur, de limiter un poète seulement à sa, au fait qu'il soit proche d'Arafat. On a oublié le fait que c'est un grand poète. Ses poèmes parlent à l'univers entier, pas seulement aux Palestiniens. Et il le dit d'ailleurs dans ses poésies, qu'être palestinien, ce n'est pas un métier. Il a souvent répété que la Palestine n'est pas seulement les arbres, les montagnes, les maisons. La Palestine, c'est une idée aussi. C'est pas seulement une terre, c'est une idée aussi, c'est un esprit.
On évoquait la poésie arabe qui circule en vous, jusque dans votre exil, Taïssir Batnidji, et la poésie française, et la culture française, c'est évidemment une question en sol majeur. J'ai envie de vous mettre maintenant un petit casque sur les oreilles, et puis des sonorités de notre terroir pour en parler.
Tu me fais peur, Paul. D'ailleurs, c'est pas la première fois.
Mais tu n'avais qu'à me répondre. Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas au lieu de rester les bras en bas? Tu as l'air... Pourquoi est-ce que je me suis marié avec une dactylo de 28 ans?
C'est vrai. Je te demande pardon.
Atterrissage en sol majeur sur le tarmac français, merci RFI. Qu'est-ce que vous évoque toutes ces sonorités, Taïssir Batnidji?
Ça, frère Jaco, c'est vrai que c'était la première chose que j'ai connue dans les cours de français. À Gaza, après c'était la Marseillaise, la France, l'histoire, les guerres.
Et ça vous fait quoi d'entendre la Marseillaise, vous?
Vous savez, les hymnes nationaux, c'est quelque chose d'assez impressionnant. N'importe quel hymne national de n'importe quel pays, c'est quelque chose qui me, je sais pas, me fait une sensation forte. Bien sûr, l'hymne national palestinien, c'est quelque chose que, où j'ai, comment dire, on a la chair de poule. Je peux pas dire que je sens la même chose avec l'hymne national français.
Le mépris de Godard.
Le mépris. Le beau cinéma français, le cinéma d'art essai, c'est ce que j'apprécie le plus, en tout cas, en tant qu'artiste. Et ça m'évoque aussi une époque, les années 60, les années 70. C'est quelque chose pour lequel je suis nostalgique, peut-être.
Ah oui.
et dans le monde, je crois que c'est une période très riche. On avançait vers quelque chose. Dans l'art, il y a eu des révolutions, il y a eu des mouvements artistiques très importants. Et j'ai le sentiment qu'on n'a plus ça aujourd'hui.
En tout cas, vous avez sur le dos un manteau, le manteau de la culture, de la culture française, mais pas que. C'est comment, cela dit, la vie d'un Palestinien à Paris?
La vie d'un Palestinien à Paris, c'est parfois facile. Je dirais que je ne suis pas différent de tout le monde, en fait. Je suis comme un Français. Je me plains de la pluie, de grisaille, de métro, de la pollution, tout ça.
Est-ce que vous arrivez à banaliser la vie normale? Sans bombardement, sans guerre.
Oui, oui. Mais parfois même, il y a trop de banalité au sens de... On s'ennuie.
Mais, n'iriez pas jusqu'à dire que la guerre vous manque?
Non, non, pas du tout. Pas du tout. Mais ça va peut-être choquer certains ou vous choquer. Je ne me sens pas chez moi. J'ai bien sûr des points d'attache. J'ai une famille, j'ai des enfants ici. J'ai
une femme française.
J'ai des relations, ma femme est française. Mais le fait surtout, je pense, de ne pas pouvoir aller chez moi, de ne pas pouvoir ma palestinianité, m'empêche de vivre pleinement ma franciété. Un sentiment que je n'avais pas quand je pouvais aller chez moi. Vous avez un sentiment de flottement, en fait. Et la seule remède à tout ça, c'est quand je travaille. Là, je n'ai pas de frontières et je me sens peut-être nulle part, mais je me sens chez moi, ou je ne sais pas.
Et un autre remède, c'est le remède en sol majeur. On va vous emmener de façon sol majeur à Jérusalem, capitale de la polémique.
Il est temps de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Je considère que ces actions sont un bon choix pour les États-Unis et dans la quête du processus de paix entre Israël et les Palestiniens.
And the Palestinians. C'est une décision regrettable que la France n'approuve pas
et qui contrevient au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.
Nous sommes profondément reconnaissants envers le président Trump pour sa décision juste et courageuse de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Cette décision traduit l'engagement du président américain envers une décision formelle de tenir ses promesses et de progresser vers la paix.
Par ces décisions déplorables, les États-Unis sapent délibérément tous les efforts de paix et proclament qu'ils abandonnent le rôle de sponsor du processus de paix qu'ils ont joué au cours des dernières décennies.
H.
H comme Home Sweet Home.
Avec les voix de Donald Trump, Emmanuel Macron, Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas pour France 24 sur RFI, avec évidemment cette question incontournable. Est-ce que pour vous, Taïsir Batnidji, Jérusalem, c'est la capitale d'Israël ?
Non. Ça pourrait pas l'être, parce que Jérusalem, c'est une ville palestinienne. Elle a été reconnue par l'ONU comme territoire occupé, qui a été confisqué par Israël. Donc ça ne peut pas être la capitale d'Israël. Je ne sais pas comment quelqu'un comme Trump peut se permettre de donner quelque chose qui ne lui appartient pas. D'abord, les Anglais l'ont fait en 1948, en donnant la Palestine entière aux Israéliens, avec la déclaration de Balfour. Le slogan de l'époque, c'était « un peuple sans terre ».
Pour une terre sans peuple.
Ouais, comme si on a complètement nié l'existence des Palestiniens à l'époque, donc ça a donné une carte blanche à l'extermination des Palestiniens, leur expulsion en 1948 et la destruction de la Palestine, et l'effacer carrément, et remplacer par un autre État. Et maintenant, aujourd'hui, avec Donald Trump, qui donne Jérusalem carrément, je ne dirais pas que ça aide à la paix, comme on le dit. C'est, au contraire, ça ne fait qu'attiser la haine.
Sans parler de la cessation de versement à l'agence onusienne dédiée aux réfugiés palestiniens. Alors, vous réfléchissez en tout cas à cette thématique du home sweet home, la maison, évidemment, et vous, l'exilé magnifique, vous voilà lauréat du programme Immersion. C'est une commande photographique franco-américaine qui a été pilotée par Hermès côté français, Aperture côté américain. Et l'idée, c'était qu'un artiste français parte à la rencontre de ses cousins. Alors, dans votre cas, ce sont vos cousins germains qui se sont installés aux États-Unis dans les années 60. Et ça a donné cette exposition incroyable, Home Away From Home, à la maison, loin de la maison.
Merci.
Alors, je veux bien qu'on mette 2-3 visages sur ces cousins avec une question. Est-ce que finalement, cette exposition, c'est le constat qu'ils ont d'abord réussi économiquement, ces Palestiniens, aux États-Unis ?
Oui, pas tous. Moi, j'ai toujours pensé que chaque Palestinien, c'est vraiment une micro-histoire de l'histoire collective, par son vécu. Parce que tous mes cousins, ils se sont déplacés, ils ont vécu la guerre, ils ont vécu... Pour revenir à la réussite, oui, je dirais pour ceux de Californie, en tout cas, c'est l'impression, ce qui ressort de nos échanges, de ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu avec eux, tout ça, qu'ils ont réalisé le rêve américain.
Le rêve américain qui consiste d'une part à préserver tout ce qui concerne la culture première, la culture palestinienne, à travers la langue, la cuisine, la religion, etc. Et de l'autre côté, à se sentir pleinement américain.
Oui.
C'est le cas de vos cousins.
Je pense. C'est vrai qu'ils sont restés attachés à la Palestine. Ils suivent quand même l'actualité jour par jour. Ils sont très informés. Ils sont souvent en contact avec les membres de famille à Gaza, par téléphone surtout. Ils appellent assez souvent. Mais on voit quand même les signes de richesse, enfin, les maisons luxurieuses, les piscines, les voitures de luxe.
Et l'attachement aussi à la culture palestinienne. Et ça donne... C'est votre objet photographique ?
Oui. J'avais prêté une attention particulière aux détails, les objets, ce qu'il y a sur les murs, sur les étagères, sur les tables, près des lits. Essayons de faire un portrait indirect de chacun.
Alors, parmi ses cousins, vous recueillez le témoignage d'une jeune fille qui m'interpelle. Elle s'appelle Safa Batnidji. Elle a 20 ans, quelque chose comme ça. Et elle se définit dans cette Amérique avec un nouveau petit concept. Elle se définit comme étant une Black Arab.
La première fois que les gens me voient, ils pensent que je suis noire.
So, right off the bat, I'm black anyways. So there's nothing you can change.
De toute façon, pour eux, je suis noire. et ça changera pas.
And just in the sense that I've never exactly fit in with white people.
Et en quelque sorte, je n'ai jamais vraiment fait partie du peuple américain.
Because they don't understand.
Parce qu'ils ne comprennent pas.
Most people don't know what Morocco is. Most people don't know what Palestine is.
La plupart ne sait même pas ce qu'est le Maroc ou ce qu'est la Palestine. Et quand je leur explique ce qu'est la Palestine, je me sens obligée de demander, est-ce que vous connaissez Israël ? Et ensuite, je dois demander, vous connaissez le conflit là-bas ? Et là, je dois parler de l'autre côté, je suis l'autre moitié du conflit. Et ensuite, je dois expliquer toute l'histoire. Et quand les gens me demandent où est le Maroc, je leur réponds, vous voyez l'Afrique du Nord ? Et là, ils me disent, ah, mais tu es africaine en fait ? Ça fait tellement de questions et de longues explications. Mais du coup, quand les gens me demandent, c'est tellement plus simple de dire que je suis noire. Il n'y a rien à dire de plus. Même quand je dis black arabe, des fois je dois l'expliquer. J'essaye d'apprendre ce terme aux gens.
Que vous inspire pour Ansel Major le témoignage de cette jeune Safa qui se définit comme black arabe, Taïsir Batnidji, vous qui êtes le cousin.
Oui.
Qu'est-ce que ça, pour vous qui vivez finalement une forme d'exil aussi, mais en France, qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, finalement, de ces exilés palestiniens aux États-Unis ? Quelle différence avec vous, par exemple ?
C'est vrai que en travaillant sur ce projet, je me suis rendu compte, et je crois que même dès le premier jour, que c'était aussi un travail d'introspection. C'est comme si je me regardais dans un miroir. Mais je me trouvais entre deux générations. Il y a les jeunes, comme Safa, avec lesquels je n'ai pas vraiment d'histoire. Je commence à les connaître. Je commence à comprendre comment elles vivent le fait d'être de parents palestiniens, d'être américains. Certains, comme Safa, se trouvent un peu au milieu. D'autres, c'est vraiment, la première réaction, c'était bien sûr, je suis américain. D'autres s'identifient en tant que palestiniens.
Ce que vous ne pourriez pas dire, vous, pour vous-même, bien sûr que je suis français.
Bah, je suis en partie français, mais je suis avant tout, enfin moi je me pense en tout cas en tant que palestinien. Par exemple dans des articles de journaux, enfin de presse sur mon travail, ça, on me qualifie de l'artiste franco-palestinien. Pourquoi pas ? Moi j'aime bien qu'on formule, mais parfois, j'aime, voilà. Non, en fait j'aime pas. J'aime pas qu'on me dise franco-palestinien parce que ça vous coupe en deux. Et je me sens coupé en deux avec cette terminologie. Soit français, soit palestinien. Mais comme je ne peux pas dire français, donc ça, pour ce que ça annule palestinien. Mais je pense que aussi c'est un élément qui a une importance là-dedans, c'est que c'est une identité qui souffre. Vous êtes privé de vivre cette identité. Vous êtes combattu dans cette identité. Donc vous êtes obligé de la défendre. Parce que c'est les Palestiniens... c'est caricatural. Je dirais que c'est une espèce en voie de disparition. Si ça continue au rythme auquel on assiste aujourd'hui, j'espère pas. Je pense pas qu'elles vont disparaître en tout cas.
ensolmajeur@rfi.fr.
Au générique de cet ensol majeur consacré à Taïsir Batnidji, un petit sentiment de maison avec la série Home Away From Home, donc qui est présentée dans le cadre d'une exposition qui vous est consacrée aux rencontres d'Arles en France jusqu'au 23 septembre. Et puis si ça fait trop loin, ben, y a la version bouquin Home Away From Home coédité par Aperture Fondation d'entreprise Hermès. On va refermer son sol majeur, je crois, avec Anthony and the Johnsons, qui fait partie de votre discothèque Taïsir. Shukran. Chut. Thank you. Sol majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast avec notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve demain avec Monsieur Daniel Camois. À demain.